Biodiversité samedi, le rendez-vous nature de Naz, avec le syndicat mixte de la baie de Bournaz.
Ce samedi 2 avril, on retrouve la biodiversité samedi avec le syndicat mixte de la baie de Bourneuf qui chaque mois cherche des thématiques au plus proche de la saison en cours. Le printemps a bien démarré, même si on ressort un peu les pulls en cette fin de semaine. Mais avec le printemps, les bourgeons, les fleurs et les pollinisateurs. Avec nous, une spécialiste justement de ce sujet, Anne-Laure Forgerie, apicultrice à Notre-Dame-de-Mont. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Emmanuel.
Alors, je suis ravie de vous recevoir, c'est la première fois, et découvrir aussi votre histoire personnelle, professionnelle. Ça commence déjà par une passion, comme beaucoup des invités de cette émission, qui remonte à l'enfance, la nature.
Oui, tout à fait. Donc, j'ai grandi dans la nature, en pleine nature, et très vite, je me suis dirigée vers des études dans la gestion des milieux, donc en gestion forestière et en gestion des espaces naturels.
Alors, vous commencez votre carrière à l'ONF, d'ailleurs.
Oui, j'ai travaillé un petit peu à l'ONF, pas très longtemps, et puis après, j'ai eu l'occasion de travailler dans différentes structures d'éducation à l'environnement, notamment dans une structure qui travaillait autour de l'abeille. Et c'est là que j'ai eu ma première rencontre avec les abeilles.
Et avec, je crois, un apiculteur aussi ?
Oui, un apiculteur, Claude, à qui je dois beaucoup, puisque c'est grâce à lui que je me suis aussi installée et que je suis apicultrice aujourd'hui.
Ça a été décisif, vous décidez de devenir apicultrice, c'est une vraie reconversion que vous entamez. Comment est-ce qu'on devient d'ailleurs apiculteur, apicultrice ? Est-ce qu'il y a une formation particulière à suivre ?
Alors moi, j'ai pas fait de formation scolaire, j'ai plutôt suivi une formation sur le terrain, donc avec deux apiculteurs, notamment Claude et un autre apiculteur, pour pouvoir me former aux gestes quotidiens, parce que l'apiculture, c'est vraiment un métier qu'on apprend sur le terrain et qu'on apprend tout au long de la carrière d'ailleurs.
Donc aujourd'hui, Anne-Laure Forgerie, vous êtes installée à Notre-Dame-de-Mont, donc j'imagine entourée de ruches. Enfin, on n'imagine même pas combien de ruches il y a autour de vous.
Alors, j'ai à peu près aujourd'hui entre 200 et 250 colonies. Alors, elles sont majoritairement réparties dans le marais breton, mais pas tout autour de moi.
Mais pour la petite histoire, on a calculé, parce que je vous ai demandé avant l'émission, vous avez combien d'abeilles autour de vous? Vous n'avez pas forcément calculé ou réfléchi à la question. C'est au minimum 10 millions d'abeilles dans les ruches.
C'est ça, c'est vrai que ça fait beaucoup en fait.
Vous ne vous rendiez pas compte?
Non, pas du tout. On sait que dans une colonie d'abeilles, il y a 50 000 abeilles à peu près, ça dépend de la saison. Mais après, c'est vrai que je n'avais jamais fait le calcul.
Ouais, si on a le temps, on parlera effectivement de cette saisonnalité aussi, de votre travail. Bon, déjà, on va parler de ces insectes pollinisateurs. Quels sont-ils? Mais aussi, qu'est-ce que la pollinisation? Vous en savez évidemment des choses sur le pollen, Anne-Laure.
Donc, la pollinisation, c'est un mot un petit peu barbare, mais en fait, c'est tout simplement la mise en contact des éléments mâles de la fleur et des éléments femelles de la fleur. Donc pour la pollinisation, en fait, il y a le pollen qui est situé sur la fleur. Une fleur est découpée en plusieurs parties. On va avoir les étamines qui sont les organes mâles de la fleur et c'est elles qui vont contenir le pollen. Donc le pollen, on le représente souvent de couleur jaune. Enfin, on se l'imagine souvent jaune, mais en fait, le pollen, il peut être noir, il peut être orange, marron, vert, blanc. Enfin, il y a vraiment toute une panelle de couleurs pour le pollen. Et puis après, il y a le pistil qui, lui, va être l'organe femelle et qui va contenir l'ovule. Donc le pollen, c'est tout simplement l'étape préalable à la fécondation des plantes qui va permettre la formation des fruits et des graines et qui forcément donnera par la suite un nouvel individu.
Donc évidemment, étape absolument importante. Et ce pollen, il est mobile, il doit être transporté, mais il marche pas tout seul.
Oui, parce que les végétaux sont enracinés, donc eux ne peuvent pas se déplacer, donc il va falloir un élément extérieur pour pouvoir transporter ce pollen mobile. Donc les principaux disséminateurs du pollen, ça va être le vent. Donc là, on l'observe en ce moment. Si vous regardez bien au niveau des cyprès, par exemple, on voit toutes ces petites boules jaunes. Et quand vous tapez dessus, en fait, ça va faire un gros nuage jaune de fumée. En fait, cette fumée, c'est tout simplement du pollen. Et donc ce pollen va être transporté en très très grande quantité par le vent. Et donc ça, c'est une stratégie plutôt des conifères, donc les conifères, donc les pins, les cyprès, et également des graminées. Il y a aussi les bouleaux, les chênes. Et en fait, ces plantes-là vont produire énormément de pollen pour que celui-ci puisse être, donc des pollens légers en plus, pour que celui-ci puisse être transporté par le vent sur des distances très importantes.
Et ça a commencé, je crois, que le bouleau, les personnes allergiques sont au courant.
Oui, donc tous ces pollens-là, c'est eux qui sont responsables du rhume des foins. Et donc oui, là, ça a commencé, ceux qui sont allergiques le ressentent bien.
Alors on a aussi l'eau qui peut permettre de transporter du pollen avec des espèces aquatiques. Elles ont aussi du pollen?
Oui, les espèces aquatiques ont aussi du pollen. Et donc là, effectivement, ça va être l'eau qui va jouer ce rôle-là.
Et puis on arrive sur des êtres un peu plus vivants, les animaux. Alors moi, je découvre avec vous que, par exemple, les mammifères peuvent transporter du pollen.
Oui, alors les animaux, ils vont intervenir de façon beaucoup plus précise. Et eux vont être capables capable de transporter des pollens beaucoup plus lourds, en fait, que le vent ne pourrait pas transporter. Donc, dans les mammifères, on va avoir surtout des espèces tropicales, notamment les chauves-souris, les musaraignes, je pense à la musaraigne à trompe qu'on retrouve en Afrique, et puis après, les oiseaux, donc il y a à peu près 2000 oiseaux qui sont des pollinisateurs, et le plus connu, celui qu'on a en tête, c'est forcément le colibri qu'on voit butiner avec son grand bec là, sur les feuilles d'hibiscus.
Mais les chauves-souris, les musaraignes, c'est parce qu'en fait, elles mangent des fleurs, tout simplement ?
Oui, elles sont nectarivores, donc elles vont se nourrir du nectar de la fleur, donc on reparlera tout à l'heure de ce qu'est exactement le nectar.
Et donc, évidemment, on arrive aussi au thème de l'émission, ce sont les insectes hein, qui pollinisent, je crois, une grande majorité des végétaux.
Oui, c'est 85% des végétaux de notre planète qui sont pollinisés par les insectes. Donc les insectes vont polliniser les plantes, mais de façon complètement inconsciente. En fait, les insectes ne vont pas le savoir. Donc eux, ils vont aller sur les plantes pour se nourrir, bien sûr, pour rechercher un partenaire sexuel et aussi pour mettre leur progéniture à l'abri, donc pour pondre leurs œufs.
Et donc après, en fait, ils vont transporter le pollen. On va en parler un petit peu de la manière dont tout se passe. Et la nature est trop bien faite, c'est un secret pour personne. On a même identifié des stratégies mises en place par les végétaux pour attirer justement les insectes. On en parle dans quelques minutes avec Anne-Laure Forgery.
J'espérais reprendre un peu mon souffle, mais le mal comptait ses proies. Et je l'imagine encore à mes trousses, tu es entré dans la danse. J'ai éclipsé ce qui me restait, les eaux n'ont plus d'importance. Tes dires deviennent ma destinée.
Vous êtes bien sûr Nove FM avec nous, Anne-Laure Forgerie, apicultrice à Notre-Dame-de-Mont dans la biodiversité. Samedi, nous parlons aujourd'hui des insectes pollinisateurs. Et ce constat, la nature fait tout pour que le cycle de pollinisation se déroule à merveille. Les végétaux attirent les insectes via diverses stratégies et déjà par leur odeur.
Oui, les odeurs. Alors, il y a beaucoup d'odeurs que nous, les hommes, on va percevoir sur les plantes, sur les fleurs, mais il y a beaucoup d'odeurs qu'on ne va pas pouvoir percevoir. Donc, les plantes vont émettre des odeurs pour attirer un maximum d'insectes. Alors, je pense notamment à une plante qu'on connaît, qu'on peut observer, c'est l'arôme tacheté. Donc, cette plante, elle va émettre une odeur de cadavre et elle va aussi dégager une espèce de chaleur et ça va attirer des petites mouches. Les mouches vont venir se poser dans l'arôme et en fait, en se posant, ils vont glisser dans le fond de la fleur. Ils vont être emprisonnés puisque la fleur va mettre en place des poils qui vont empêcher l'insecte de sortir. Donc, l'insecte va rester dans la plante, va être nourri parce que la plante va sécréter de la nourriture et le lendemain matin, la plante va libérer son pollen qui va se coller sur les poils de la mouche et la mouche va sortir et va se faire leurrer par à nouveau un autre arôme. Et en étant piégée dans le nouvel arôme, eh bien, elle va libérer le pollen et en reprendre et ainsi de suite.
Donc, bel exemple, effectivement, je ne connaissais pas du tout. L'odeur est importante, la couleur. Et là, on s'aperçoit que les différentes nuances vont attirer les insectes.
Oui, on a tous remarqué les couleurs des fleurs. Donc, les fleurs, elles vont avoir des couleurs qui vont avoir de grands contrastes. Donc, ça va être par exemple le jaune et le noir, le blanc et le jaune. Donc, les abeilles, par exemple, ne vont pas pouvoir voir le rouge, mais elles vont voir l'ultraviolet. Et du coup, elles vont être attirées par les plantes de cette façon-là.
Et la forme ? La forme a aussi un rôle dans l'attraction de l'insecte ?
Oui, les plantes vont avoir des formes bien spécifiques. Je pense notamment aux orchidées. Donc, les orchidées, elles sont un peu spécialisées dans l'attraction des insectes. Elles vont avoir l'aspect, la couleur, la pilosité de certains insectes, notamment les ophrys. Donc, on va avoir l'ophrys abeille, l'ophrys araignée, l'ophrys mouche, l'ophrys bourdon. Donc, toutes ces ophrys, elles vont attirer plutôt des abeilles solitaires. Et ces abeilles solitaires, donc les mâles de ces abeilles solitaires vont penser que ce sont des femelles. Donc elles vont venir, les mâles vont venir se poser sur la fleur, pensant s'accoupler avec un congénère, en fait, une congénère, une femelle. Mais en fait, pas du tout. Les ophrys vont jusqu'à imiter l'odeur des femelles de certaines espèces d'abeilles. Donc ce qu'on appelle des phéromones. En fait, les insectes communiquent avec des phéromones, des odeurs. Et donc les orchidées vont imiter jusqu'à l'odeur pour leurrer vraiment le mâle qui va venir se poser sur la fleur. Et en tentant de s'accoupler avec cette fleur, eh bien, il y a du pollen qui va s'accrocher sur ses poils. Au bout d'un moment, il va comprendre qu'il s'est fait avoir. Il va s'envoler et aller retrouver. Il y a de fortes chances qu'il retrouve une autre ophrys.
Et peut-être une vraie abeille un de ces jours.
J'espère pour lui une vraie abeille. Oui, au bout d'un moment, ce serait quand même bien pour lui.
Mais c'est incroyable, hein, ce piège de la nature. Alors, tout simplement, le pollen nourrit, donc attire les insectes qui ont besoin de nourriture, qui ont faim, tout simplement aussi.
Oui, les fleurs, en fait, vont fournir de la nourriture aux insectes, donc notamment le pollen et puis le nectar. Donc, le pollen, c'est un super aliment parce que c'est plein de protéines, en fait. Et le nectar, lui, c'est l'eau sucrée qu'on va retrouver dans les fleurs. Et cette eau sucrée, c'est comme du sirop. Donc, les insectes vont le percevoir à des kilomètres et venir se nourrir de cette substance.
Qui sont ces insectes attirés par les fleurs ? Il y a déjà les butineurs et ils sont extrêmement nombreux.
Oui, alors parmi tous les insectes que compte la planète, hein, il y a à peu près 1 million d'insectes sur la planète connus, parce que je précise qu'il y en a encore des millions qui ne sont pas connus. On en découvre tous les jours des insectes. Et bien, parmi tous ces insectes, il y a 4 grandes familles qui vont être concernées par la pollinisation. Donc il va y avoir les coléoptères, donc environ 10 000 espèces. Alors les coléoptères, c'est un nom un peu compliqué, mais en fait les coléoptères c'est tout simplement les coccinelles, les scarabées, les cétoines. Alors eux, ils ont des vols un peu lourds, ils sont un peu lourdeaux, donc ils vont plutôt aller se poser sur des fleurs comme les ombellifères par exemple, ou des fleurs très larges comme les roses, les renoncules. Après, on va avoir les diptères, il y a environ 8000 espèces. Donc les diptères, ce sont les mouches, les moustiques, les sirfs. Alors le moustique, je tiens à préciser, voilà, il nous embête l'été, il vient nous tourner autour des oreilles, il vient nous piquer, mais c'est aussi un grand pollinisateur en fait.
On n'y pense pas forcément.
Pas forcément. Et puis dans les diptères, il y a une petite espèce qu'on appelle le bombile. Alors je pense que certains d'entre vous ont dû l'observer, c'est une mouche qui va faire un vol stationnaire avec une grande trompe. Et en fait, on va voir cette trompe. Donc l'insecte va se déplacer de fleur en fleur comme un colibri en fait, et va aspirer le nectar. Donc c'est un vol très très rapide. Et puis après, il y a les lépidoptères, donc environ 5200 espèces. Là, ce sont les papillons de jour, les papillons de nuit. Là, c'est assez intéressant parce que certaines espèces qui vont plutôt s'ouvrir la nuit, des fleurs qui vont plutôt s'ouvrir la nuit, vont être pollinisées par les papillons de nuit. Et puis après, on va avoir bien sûr les hyménoptères. Donc les hyménoptères, environ 8500 espèces, ce sont les fourmis, les guêpes, les frelons, les bourdons et bien sûr les abeilles.
Et on comprend maintenant, en vous écoutant, qu'elles ont toutes hein, ces espèces des rôles à jouer dans la pollinisation. Et ce qu'elles ne savent peut-être pas, c'est qu'en fait, elles valent de l'or.
Oui, il y a une étude scientifique de 2005 de chercheurs français de l'INRA et du CNRS, et de chercheurs allemands, qui ont estimé que l'activité pollinisatrice de ces insectes sur les cultures s'élève à 153 milliards d'euros.
C'est énorme.
Oui, ça nous montre vraiment l'importance que ça peut avoir... sur la planète.
Et dans l'économie planétaire. Oui. Un petit mot quand même sur notre territoire, sur votre territoire, le Marais breton. Sa diversité de milieux, justement, va permettre une belle diversité d'insectes aussi.
Oui, on a la chance ici en Marais breton d'avoir tout un panel de milieux. Donc on va retrouver l'estran, la dune, la forêt, le marais doux, le marais salé. Et dans chaque milieu, en fait, il va avoir une diversité de plantes inféodées à ces milieux et forcément différents insectes également.
Et on entend, et on va en parler, hein, combien c'est important de préserver la biodiversité pour préserver cette diversité animale et des insectes. On revient dans quelques minutes. On va parler quand même de cet insecte majeur. En tout cas, on y pense tous hein, quand on pense au pollen. C'est l'abeille, et vous travaillez avec plusieurs millions d'abeilles chaque jour à leur forgerie. Voilà, quel est son rôle et quelles sont-elles aussi? On va distinguer énormément d'espèces dans le monde également. C'est dans 3 minutes.
10 ans déjà, ça se fête. C'est l'anniversaire de Pneumatique Chalandais, une entreprise locale de professionnels proche de vous. Pour son anniversaire, Pneumatique Chalandais écrase les taxes. Jusqu'au 9 avril, la TVA remboursée pour l'achat et le montage de 2 ou 4 pneus triangle et 15% de remise sur les batteries disponibles en magasin. Anthony, Guillaume, son équipe vous accueillent rue Gustave Eiffel à Chaland du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h le samedi de 8h à midi.
Voir conditions en magasin.
L'énergie notre avenir, économisons-la.
Je vais t'emmener dans un endroit délicieux.
Lequel ?
Ça commence par...
Un endroit zen.
On peut dire ça. Tes sens vont être en éveil.
On part en voyage ?
Un peu, oui. Je t'emmène au Café Omri. Ils ont ouvert une nouvelle boutique.
Ah, le torréfacteur artisanal ?
Oui, ils ont des cafés exceptionnels, mais aussi toute une gamme de thé et d'accessoires thé et café.
Bah, raconte ! C'est où cette nouvelle boutique Café Omri ?
Passage Carnot à Chaland. On peut même commander en ligne sur leur site café-omri.com.
Le courrier vendéen. Toute l'information de votre commune et du nord-ouest Vendée. Chaque jeudi, le courrier vendéen vous guide, vous informe, vous distrait, vous facilite la vie. Des scoops, des enquêtes, du sport, des idées de sortie. Le courrier vendéen, un autre regard sur l'actualité au plus près de chez vous.
À la une, sur le littoral vendéen, montée des eaux, sommes-nous prêts? Ukrainiens, ils veulent travailler en France. Ce week-end à Notre-Dame-de-Mont, le salon Plantes et Nature revient à lire dans le courrier vendéen.
L'hebdo, ça vous change le quotidien. Le courrier vendéen, c'est aussi sur actu.fr.
Sur un fil, vivre seul ou vivre. seule fois. On ne meurt pas en une 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 seule fois.
La biodiversité samedi, c'est sur 9FM tous les premiers samedis du mois. Et puis aujourd'hui, avec le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf, on s'intéresse aux insectes pollinisateurs. Et évidemment, on pense tous à Maya ce matin, on pense tous et toutes aux abeilles. Avec nous, Anne-Laure Forgerie, apicultrice à Notre-Dame-de-Monde, dont vous travaillez avec elle au quotidien. Et on compte un nombre impressionnant d'espèces dans le monde.
Oui, rien que dans le monde, il y a 20 000 espèces d'abeilles. Il y en a environ 2200 rien qu'en Europe, et en France ça va être 1200 espèces d'abeilles. Donc quand je dis les abeilles, hein, ça va comprendre les bourdons, les abeilles solitaires et bien sûr l'abeille domestique, donc l'abeille à miel.
On peut expliquer un petit peu la différence, bourdon, abeille solitaire, abeille domestique?
Alors là, déjà il faut savoir que la grande majorité des abeilles en France, ce sont des abeilles solitaires. Donc quand je dis abeilles solitaires, c'est des abeilles qui vont vivre toutes seules, individuellement. Donc elles vont construire un nid. Il va y avoir une grande diversité de nids d'ailleurs chez les abeilles. Ça peut être dans la terre, ça peut être dans le sable, ça peut être dans les coquilles vides d'escargots, ça peut être dans les vieux murs en pierre, dans le bois mort, etc. Donc vraiment une grande diversité. Et ces abeilles vont aller chercher de quoi se nourrir sur les fleurs et vont le ramener pour se nourrir elles et nourrir leurs larves.
Le bourdon?
Alors le bourdon, hein, c'est vraiment une espèce très connue qu'on voit facilement là en ce moment. Et le bourdon, il est intéressant parce qu'il va sortir de bonne heure au printemps, bien avant l'abeille, puisqu'il est capable de sortir des 8 degrés. Donc le bourdon, il va vivre en société aussi, mais avec des colonies assez restreintes, de 40 à 400 individus. Bon, c'est quand même assez important, mais voilà, beaucoup moins que les abeilles domestiques. Et puis le bourdon, eh bien, il va vivre. Enfin, les fondatrices vont sortir au printemps en ce moment et chacune va faire un nouveau nid. Et ce nid disparaîtra complètement à l'automne.
Et on s'aperçoit qu'en fait, les nids sont très variés aussi. En tout cas, les milieux dans lesquels elles construisent leur nid, hein, les abeilles, les bourdons, sont assez variés.
Oui, ça va être dans la terre, donc dans le sable, dans le bois, enfin vraiment une grande diversité. Et je pense à une abeille qu'on observe souvent dans nos jardins, c'est l'abeille charpentière, qu'on appelle aussi le xylocope. Donc c'est la plus grosse abeille qui existe. Elle va faire à peu près 2,5 cm. C'est une abeille, quand on l'entend, on l'entend souvent avant de la voir d'ailleurs, on entend ce gros bourdonnement. Et c'est une abeille qui est toute noire, légèrement violacée, ça fait un peu métallisé au niveau de son corps. Donc je voulais juste dire que c'est une abeille qui est complètement inoffensive. En fait, elle fait beaucoup de bruit, mais elle ne pique pas. Donc, aucun danger. Laissez-la vivre. Elle est très, très importante, comme toutes, quoi.
Je pense au film, hein, beaucoup de bruit pour rien. La pièce, évidemment. On peut évoquer, juste avant de parler, évidemment, des importantes pour nous aussi, et puis pour vous, c'est l'abeille domestique, de leur taille qui varie. Alors, je découvre aussi ça. Vraiment beaucoup, vous venez de le dire, mais aussi d'un individu à l'autre.
Oui, ça va être donc de 4 mm à 2,5 cm. Donc, comme l'abeille charpentière, hein, qui est la plus grosse. Et puis après, il y a des toutes petites qui vont se poser sur les fleurs et il va vraiment falloir un œil aguerri pour pouvoir les observer.
Donc, importantes pour nous les hommes, ce sont les abeilles domestiques, aussi appelées abeilles à miel. Pas facile à dire. Ce sont justement celles avec lesquelles vous travaillez.
Oui, donc l'abeille domestique, en fait, elle a une relation assez étroite avec l'homme, puisque l'homme s'est de tout temps, dès la préhistoire, intéressé à cette abeille, puisque cette abeille va produire du miel. Donc le miel, c'était la première meilleure substance sucrée que l'homme a pu récupérer dans la nature. Et cette abeille, donc, elle va produire du miel, mais pas seulement, elle va aussi produire du pollen, donc le pollen qui va aussi être consommé par l'homme. Elle va produire de la cire, elle va produire de la gelée royale, elle va produire de la propolis, et si on veut aller beaucoup plus loin, également du venin qui peut être utilisé en apithérapie. Donc les abeilles, oui, sont élevées par l'homme pour toutes ces raisons.
Et ce qui la distingue des autres, c'est que c'est un animal social.
Oui, donc il y a trois espèces d'insectes qu'on dit sociales dans le monde. Ça va être les termites, les fourmis et les abeilles. Alors quand on dit social, c'est tout simplement parce que les bourdons le sont aussi, les guêpes aussi, les frelons aussi. Mais la grande différence, c'est que les abeilles, en fait, la colonie, le nombre d'individus l'hiver va être aussi très important. Donc on va passer à peu près de 80 000 l'été à 15 20 000 en hiver. Donc il y a toujours une activité. C'est pour ça que les abeilles ont besoin de récolter énormément de nectar pour le transformer en miel, puisque ça va être leur nourriture l'hiver. Donc comme le bourdon, elles vont avoir une activité de butinage qui va commencer au mois de mars et qui va se terminer à peu près au mois de novembre.
Donc votre activité aussi, elle est saisonnière,
hein ? Oui, bah oui, du coup on est calé sur le rythme de l'abeille complètement et sur le rythme de la nature en fait. C'est ce qui fait aussi que ce métier est intéressant.
Alors comment elle récolte le pollen et le nectar ?
Donc, l'abeille, elle est hyper bien équipée. Donc déjà sur son corps, il y a des poils. Une abeille, c'est tout poilu, on le voit pas forcément, mais quand on regarde de près, elle a des poils partout. Et quand l'abeille va venir se poser sur la fleur, eh bien en fait, ça va déclencher un espèce de mécanisme qui va faire que le pollen va se coller sur les poils de l'abeille. Alors le pollen, il peut être à scratch, mais aussi collant. Donc il va se déposer et après l'abeille, elle va prendre ses pattes et elle va se brosser. Donc elle se brosse et elle va accrocher les boules de pollen, une boule de pollen sur chaque patte, donc deux boules de pollen au total, sur ses pattes arrière. Et une fois qu'elle aura rempli ses corbeilles de pollen, eh bien elle va rentrer à sa ruche et elle va décharger son pollen dans les alvéoles.
Alors son rôle est évidemment important et notamment économique, mais pas seulement, vous nous parlez aussi d'abeilles sentinelles de l'environnement. Pourquoi ce terme ?
Alors, abeille sentinelle de l'environnement, parce que comme l'abeille est élevée par l'homme, donc par les apiculteurs, en fait, ça va être une espèce qui va être facile à étudier. Et on va étudier notamment les pollens pour faire un peu un état des lieux du biotope dans lequel elle vit. Et par ces pollens, eh bien, on va voir qu'il y a des espèces qui vont disparaître, des espèces de plantes qui vont disparaître, ou des espèces qui vont être au contraire en grand nombre alors qu'elles n'y étaient pas avant.
On a beaucoup, j'imagine, de chercheurs qui se penchent sur elles. Puis on sait aussi, tout simplement, que c'est beaucoup d'espèces d'abeilles sont en voie de disparition. On a un effondrement de population.
Oui, malheureusement, on observe un effondrement des populations d'abeilles. Alors pas seulement, c'est le cas pour tous les insectes pollinisateurs et les autres aussi. Donc ça, c'est principalement lié à un changement radical au niveau de l'agriculture. C'est vrai que depuis les années 50, l'agriculture a beaucoup évolué, donc on est passé sur beaucoup de monoculture, utilisation de la chimie, utilisation des engrais, des pesticides et aussi l'urbanisation. Donc les milieux vont disparaître, énormément de végétaux vont disparaître, donc il va y avoir des carences en nourriture pour ces insectes, et ces insectes vont également disparaître puisqu'ils sont liés à ces plantes.
Alors vous dites, ils vont disparaître, pour vous c'est inévitable?
Alors j'espère que non, j'espère qu'on va se réveiller avant qu'il soit trop tard. Il y en a déjà qui ont disparu dans certains pays d'Europe, après voilà, il faut intervenir avant qu'il soit trop tard en fait.
Donc on l'entend, c'est très important de les préserver, nos abeilles, de préserver la biodiversité, sans omettre que les préserver c'est aussi nous préserver car elles comptent énormément dans notre quotidien, dans notre alimentation, on ne se rend pas compte.
Oui, l'abeille, elle va polliniser 35% de notre alimentation. Donc, en termes de cuillerée, ça va être une cuillère sur trois. Donc, effectivement, si ces abeilles disparaissent, eh bien, c'est 35% de notre alimentation qui va disparaître. Donc, ça va être les fruits, les légumes, les céréales, le chocolat, le café, etc.
Ouais, vu comme ça, effectivement, on constate aussi voilà l'importance de toute cette lutte pour la biodiversité. Mais écoutez, merci beaucoup Anne-Laure. Justement, vous savez que je termine cette émission par une question, alors maintenant une double question. Pourquoi c'est si important, comme c'est la première fois que je vous reçois, je vais vous la poser, pourquoi c'est si important d'être actif pour préserver la biodiversité d'après vous? Et puis si vous aviez un petit geste à nous conseiller, à nous les auditeurs, voilà, profane un petit peu de cette thématique.
Donc oui, la biodiversité, il faut la protéger. Déjà moi, de par mon métier, en fait, si la biodiversité disparaît, ce sont les abeilles qui disparaissent, donc mon métier qui disparaît. Et puis après, au-delà de ça, la biodiversité, elle nous entoure. Donc dès qu'on va dehors, en fait, il y a juste à regarder et de voir ce que les insectes, les végétaux ont mis en place. Donc c'est quand même extraordinaire. Après, moi, je pense qu'en tant que consommateur, on a un grand rôle à jouer. En fait, en décidant de consommer mieux, donc consommer local déjà, et de soutenir et favoriser une agriculture paysanne qui protège la biodiversité.
Écoutez, voilà, moi, j'en prends toujours plein de la graine, comme on dit, en vous écoutant. Je crois savoir, et je suis même certaine qu'on peut venir vous rencontrer. En tout cas, vous venez aussi à la rencontre du public. Tout l'été, on va vous retrouver.
Oui, tout l'été, je proposerai des animations à Biotopia. Donc, c'est le mercredi matin de 10h à 12h. Et puis, si jamais vous avez envie de venir discuter avec moi, j'ouvre aussi ma miellerie tous les samedis matins de 10h à 12h.
Bon, là, c'est terminé. Donc, pour samedi prochain, on rappelle l'adresse.
Donc, c'est le Pré-Auvaux à Notre-Dame-de-Mont.